Amis, je lance aussi le YouTube et donc on est lancé. Shalom, shalom à tous. Bonjour. Alors, Boker Tov pour nos amis outre-Atlantique. Tsaoraim Tovim pour nos amis de France et Erev Tov presque pour nos amis d'Israël. Voilà, on est lancé pour un petit cours très spécial. Aujourd'hui, c'est, il paraît, la fête des pères en Occident. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire un cours en rapport avec la fête des pères. Et donc, on a appelé ce cours la fête des pères. Mais attention, pas des pères P-E-R-E-S, mais des pères P-A-I-R-E-S, la fête des zougotes, des pères, des zougotes, des zougiotes, zougiotes. On va voir de quoi il s'agit. Les amis, ce soir, cet après-midi, ce matin, vous le prenez comme vous voulez, on va parler d'un sujet très important, à savoir la notion de père. La notion de père. C'est justement pour. Alors, on souhaite une bonne fête à tous les papas du monde. Et justement, parce qu'on souhaite une fête à tous les papas du monde, eh bien, on va leur faire comprendre à nos papas qu'ils ne peuvent être le papa que s'ils ont trois pères. Et en fait, nous tous, nous avons besoin de trois pères. C'est-à-dire, dans notre vie, on ne peut pas se mouvoir dans ce monde seul. On ne peut pas être seul dans ce monde, un, psychologiquement parlant, enfin, je ne vais pas mettre ma tête là où il y a des beaucoup plus grands que moi, mais psychologiquement parlant, ce n'est pas bon d'être seul. Ça, c'est Aleph. Mais au-delà de la psychologie, au niveau également de la Torah, quand on regarde dans le livre de Bereshit, pourquoi Kadosh Baruch Hu décide de créer Chava pour Adam? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Il ne veut pas qu'il soit Echad Ba'aretz, comme lui, il est Echad dans le firmament. C'est-à-dire, le seul qui peut véritablement être un, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, un homme, je parle d'un homme avec un grand H, un homme ou une femme, c'est pas important, mais l'homme avec un grand H, s'il pense qu'il peut se mouvoir dans ce monde seul, eh bien, c'est quelque part un schizophrénisme fantastique puisqu'il se prend véritablement pour Dieu. Et c'est donc un véritable problème. L'homme ne peut pas se satisfaire dans son monde s'il est seul. Il a besoin de trois couples. Il doit faire partie lui-même de trois systèmes de couples. Et quand je dis encore une fois un homme, je parle aussi d'un homme, d'une femme, l'homme échané. Quels sont ces trois couples? Eh bien, tout d'abord, il y a la notion de zougiyout, qu'on connaît très bien, la notion de ish ve'isha. Le couple de mari et femme, c'est un couple fondamental, c'est une des bases, un des trois piliers de la vie de l'homme. Donc ça, c'est la première paire, et on va évidemment développer après. La deuxième paire, c'est l'homme et son fils. L'homme et son fils, c'est une autre dimension fondamentale. Et on va voir pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas ne pas avoir de fils. Je parle ici au niveau de l'idéal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Quand je dis un fils, ça peut être aussi une fille pour l'homme chané, fils ou fille, l'homme chané, un enfant. Et donc il y a une mitzvah dans le judaïsme d'avoir des enfants. Il ne s'agit pas seulement de la pérennité de l'espèce. Ça va au-delà de cela. Donc, c'est la deuxième, c'est le deuxième concept de couple qu'il y a dans la vie de l'homme. L'homme avec sa femme et l'homme avec ses enfants, l'homme avec son fils. Et il y a une troisième dimension de couple qui est ce que le Talmud, dans le traité de Chagiga, appellera O Chavruta, O Mituta. Il te faut également un partenaire d'études, un ami, un véritable ami. Cet ami avec qui tu partages ton étude, semble-t-il pour le Talmud, est tellement fondamental que si tu n'as pas de chavruta, de binôme d'études, eh bien c'est mituta, c'est la mort qui t'attend. Alors, je voudrais commencer d'Afka, donc maintenant qu'on a mis en place ces trois piliers, l'ami, le fils et le conjoint, eh bien maintenant je voudrais qu'on rentre un petit peu plus en profondeur et il va falloir surtout qu'on réponde à une autre question fondamentale. Pourquoi, si on doit ressembler à Akadosh Baruch Hu, puisque notre but est de ressembler à Dieu, si Dieu est un, bah lui ressembler au maximum serait peut-être de rester un. Pourquoi est-ce que c'est tellement un problème? Eh bien, c'est à cela qu'on répondra une fois qu'on aura compris quelles sont les trois dimensions de père dans la vie de l'homme. Eh bien, on pourra comprendre pourquoi c'était donc fondamental d'en avoir. Alors, je reviens tout simplement en premier lieu à cette notion de chavruta. La Gemara nous raconte qu'il y avait un grand, grand dirigeant du peuple juif qui s'appelait Rabbi Yochanan. Donc, on est dans la première génération des Amoraïm. Donc, en termes de timing, mettez ça plus ou moins aux années 250, aux années 250 de l'ère chrétienne. Donc, on a un homme extraordinaire qui s'appelle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il va faire la rencontre de quelqu'un qui, à la base, bah, rien n'aurait pu présager qu'ils allaient devenir Chavruta. Puisque un jour, Rabbi Yochanan va se baigner dans le fleuve. Et à ce moment-là, le plus grand des brigands de la région de l'époque amène son équipe, voit un mec nu dans l'eau, avec tous ses effets personnels bah, sur la rive. Il dit, bah, voilà, on va faire une affaire très vite fait. Et il va pas pouvoir nous empêcher de lui voler tout ce qu'il a. Et donc, ce monsieur, qui s'appelle Resh Lakish, eh bien, il arrive et il prend tout ça. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan lui dit, wow! Alors, il n'essaye pas de l'arrêter, non, rends-moi tout ça, parce qu'il comprend bien que, semble-t-il, que physiquement parlant, il a compris vite fait qu'il allait gagner. Donc, il a décidé de se la jouer plus psychologie inversée. Vous savez, c'est comme ce personnage que tout le monde connaît, que si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas assez approfondi vos liens parents-enfants. Je parle de Scar dans Le Roi Lion, bien sûr. Et ceux qui ne maîtrisent pas assez Le Roi Lion, c'est que, encore une fois, leurs liens parents-enfants doivent être remodelés. Et bah oui, c'est une évidence. Et donc, eh bien, il y a une scène où Scar, ne s'étant pas présenté à la présentation de Simba, donc le fils du roi et le futur roi, l'héritier, eh bien, Mufasa, son grand frère, vient le voir dans sa tanière. Et bon, il le cherche un peu, et là, Mufasa lui dit, « Tu cherches la guerre ?» Et là, Scar répond, je cite verset 22, chapitre 3, il lui dit, « Calme-toi, calme-toi, il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. » Il dit, « Ah bon ?» Enfin, c'est l'oiseau qui lui dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Bien, parce que j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. » Eh bien oui, elle m'a la saute. Il y a des fois où il faut savoir quel combat mener et quel combat ne pas mener. Donc, Rabbi Yochanan, il comprend que s'il va dans un affrontement direct avec Resh Lakish, il n'a pas de chance de gagner. Donc, il va se la jouer à l'envers. Il lui dit, mais tu es d'une force incroyable. Vous savez, ça ressemble, la Havdil, entre Disney et Jean de La Fontaine, mais ça ressemble un petit peu à notre corbeau et notre renard. Eh oui, le renard sait qu'il ne pourra pas sauter jusque à la branche du corbeau et donc il ne pourra pas avoir le fromage, mais il va essayer de l'avoir à l'envers. Et donc, Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il fait avec Resh Lakish. Il lui dit, « Ah, mais tu es d'une force incroyable !» Et l'autre, il dit, « Bah oui, évidemment !» Il dit, « Mais si seulement cette force-là, tu la mettais au service du bien, personne ne pourrait rivaliser avec toi. » Et ça lui travaille à Resh Lakish, et finalement, eh bien, Resh Lakish fera tshuva, et il deviendra la chavruta de Rabbi Yochanan. Ils vont devenir binôme d'études, et ça va être une entente fusionnelle, puisqu'on ira même jusqu'à, enfin, Rabbi Yochanan ira même jusqu'à donner sa sœur en mariage à Resh Lakish. Donc, très bien. Alors, quel était ce couple d'études? Eh bien, ce couple d'études était totalement atypique. Parce que si tu allais voir une étude entre les deux hommes, il fallait mettre des boules-quies. Pourquoi? Parce qu'ils se disputent tout le temps. Ils sont jamais d'accord. Jamais d'accord sur rien. Mais sur rien, hein, ça veut dire. Maintenant, je vais vous dire la fin de l'histoire, pour revenir au début. La fin de l'histoire, c'est qu'un jour, bon, bah, Resh Lakish est décédé. Et comme Rabbi Yochanan était très triste de ne plus pouvoir étudier, les Chachamim lui ont trouvé un remplaçant. C'était Rabbi Elazar. Aussi un très grand sage, un grand Talmid Chacham. Mais le seul problème, c'est qu'à chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, eh bien, Rabbi Elazar donnait 5 arguments pour dire pourquoi il avait raison de dire ça. Et Rabbi Yochanan, il est tombé en dépression. Il dit, mais j'ai pas besoin de toi pour dire que j'ai raison. J'ai moi, ça je dis. En d'autres termes, c'est quoi une chavruta? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Une vraie chavruta, c'est quand tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait, vous savez, il y a une phrase qui dit comme ça dans le Talmud, « Elou ve elou Divrei Elohim Chaim, c'était dans la machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit Elou ve Elou, Divrei Elohim Chaim, ve Alacha ke Bet Hillel. Rabbi Yitzhak Utner, Baal HaPachad Yitzhak, eh bien, Rabbi Yitzhak Utner, il disait une phrase fantastique. Il disait, quand il y a deux personnes qui étudient la Torah, hein, et que c'est toujours le même ton, que c'est toujours la même réflexion, que c'est toujours la même façon de penser, c'est morbide. En d'autres termes, disait Rabbi Yitzhak Utner, Kshayesh Elou ve Elou, alors c'est divrei Elohim Chaim. C'est-à-dire, lorsqu'il y a et lui qui pense ça et l'autre qui pense pas pareil, alors oui, alors là, il y a de la vie. Aval kshe'en elu ve'elu, c'est divrei Elohim, aval metim. En d'autres termes, il est fondamental de se confronter à quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Pourquoi? Eh bien, parce que ça me permettra de voir l'autre côté de la pièce. Eh oui, je ne peux voir que la moitié d'une sphère. Si je veux voir l'autre côté, il faut soit que je bouge, soit que quelqu'un en face me dise l'autre côté. Et c'est ça notre étude de la Torah. Parce qu'il est évident que moi, ma compréhension de la Torah ne peut pas être complète. Ne peut pas être complète. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. Je suis fini. Je suis fini. Alors, je suis très grand, je suis plein de potentiel. Mais en tant qu'être humain, en tant que créature, eh bien, je ne suis pas infini. Or, la Torah qui nous vient de Dieu est infinie. Il est donc évident que je ne peux pas tout comprendre. Il me faut donc quelqu'un qui aura une autre vision. Et c'est en fait exactement ce qui est dit pour le Mahamad Arsinaï. Je ne sais plus si on en avait parlé à l'approche de Shavuot, mais il y a un verset dans la Torah qui dit « Vechol ha'am ro'im et akolot » Et tout le peuple a vu les voix. Alors, on avait dit qu'effectivement, en France, on connaît quelqu'un qui a entendu des voix. Et elle n'a pas bien fini, la pauvre Jeanne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu les voix. Eh bien, Yonatan Ben Uziel, le grand Tana Yonatan Ben Uziel, est le traducteur du Nar, mais il est également traducteur de la Torah. Il écrit, il ne fait pas que traduire, il explique. Il dit qu'ils ont vu comment la voix sortait de la montagne et rentrait dans chaque oreille différemment en fonction de ce que chaque oreille comprend. C'est-à-dire qu'on a vu à quel point, ben, moi, allez, on va dire qu'on était tous là-bas au Arsinaï, on s'en rappelle peut-être moins que d'autres, mais bon, disons qu'on était là-bas. Eh bien, moi, Ethan, j'ai vu comment le même dibour à Elohim, la même parole de Dieu, est rentrée dans les oreilles de Harry différemment des miennes. Et donc, ça m'oblige maintenant à reconnaître que Harry a une autre compréhension de la Torah et elle est tout aussi importante pour faire le puzzle en entier. Et c'est ça la dimension de Chavruta. La dimension de Chavruta, hein, c'est comprendre que j'ai besoin de mon ami pour m'aider à comprendre le dévoilement de Dieu. C'est vrai, évidemment, dans l'étude de la Torah, c'est ce qu'on a mis en place, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. La relation que tu entretiens avec ton ami n'est absolument pas celle que tu entretiens avec ta femme ni avec tes enfants. Entre parenthèses, c'est l'un des grands problèmes et je ne me permettrai pas de donner des conseils du haut de mes 34 ans et c'est sûr que j'ai tout à apprendre de vous, mais j'ai appris de mes maîtres que l'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que très souvent les parents de notre société occidentale recherchent un maximum à devenir les copains de leurs enfants. Et ils n'ont pas besoin de toi pour ça. Ils ont leurs copains. C'est d'un amour. Que toi, ta relation, ce ne soit pas « Oh, mon pote, comment ça va, mon pote ?» Moi, combien de fois j'ai entendu ça à la maison, quand j'ai parlé de manière pas comme il fallait. Combien de fois j'ai entendu mes parents me dire « Je ne suis pas ton pote, je ne suis pas ton copain. Ça, tu le diras à tes copains. » Et c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'ils ont dit ça. Parce que si mon père devient mon copain, alors c'est qui mon père? Et c'est un vrai problème. Donc, la notion de chaver, c'est une notion fondamentale. Mais attention, cette notion-là, elle s'achète. Knelecha chaver. Mazé knelecha chaver. Amène-lui des gaufres, amène-lui des crêpes, amène-lui du coca, fais-lui kiffer, le kiffer un peu. Non, c'est que ça. Oui, il y a de ça aussi. Il faut qu'il ait envie d'être copain avec toi, mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait un kinyan entre vous deux. Il faut que cette relation, vous l'ayez basée sur quelque chose. Ça peut être la Torah, comme on a dit tout à l'heure, mais ça peut être d'autres choses. Il y a des gens qui sont des chaverim emet de leur club de sport. Genre, ce qui nous unit, c'est le taekwondo, le judo, ce que tu veux. Il y en a qui sont des chaverim balimoudim, pas dans la yeshiva, mais ce sont deux grands professeurs, machin. Ça va. Cheyé, il faut qu'il y ait quelque chose qui les relie, un kinyan qui va faire que leur relation, eh bien, va pouvoir évoluer sur le fait que lui me donne et moi je lui donne. Ça, c'est la première notion, la première dimension, la première paire de la vie d'un homme, c'est la notion de chavruta. Et la deuxième, eh bien, on a dit, c'est la notion de parents et enfants. On a besoin d'avoir des enfants, on a dit tout à l'heure, c'est une mitzvah, nachon. Et la pire chose à faire, et c'est ce qu'on fait tous, enfin non, je plaisante, on ne fait pas tous, il y en a qui sont plus intelligents que moi, mais moi, je tombe là-dedans très souvent, c'est que, alors, j'ai un garçon et trois filles. Mes filles, vous savez, on va pas se la jouer psychologue à deux balles, mais le complexe d'Œdipe, pourquoi est-ce que ce n'est pas le complexe d'Antigone? C'est-à-dire, dans Œdipe, c'est le garçon qui veut tuer son père pour coucher avec sa mère. Ce n'est pas la fille qui veut tuer son père pour avoir une relation privilégiée avec sa mère. Il faut comprendre une chose. Entre le père et le fils, pourquoi y a-t-il ce complexe d'Œdipe? Pourquoi y a-t-il cette tacharout? Eh bien, tout simplement parce que le fils a l'impression que le père lui fait de l'ombre pour pouvoir se révéler. Et le père a l'impression que le fils a envie de lui prendre sa place. Combien on a vu dans l'histoire humaine de princes tuant leur père, le roi, pour devenir le roi plus rapidement? On connaît ça très bien. Maintenant, vous connaissez également, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'histoire d'Œdipe. Vous connaissez l'histoire d'Œdipe. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est sa correspondance juive. Oui, car vous savez qu'il y a une histoire d'Œdipe juive. Il y a un Midrash très peu connu qui s'appelle Midrash Yehoshua bin Nun. Alors, le Midrash Yehoshua bin Nun n'a rien à voir avec le disciple de Moshe. Rien à voir avec Yehoshua bin Nun. Yehoshua, ça veut dire celui qui a été délivré, celui qui a été sauvé. Bin Nun, Nun en araméen, c'est un poisson. C'est-à-dire, c'est le Midrash de celui qui a été sauvé du poisson. Et le Midrash nous raconte, il y a l'équivalent, le complexe d'Elek. Nachon. Alors attends, c'est quoi ce Midrash? Eh bien, on nous raconte qu'il y a un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils ont été voir un oracle qui leur a dit, vous allez avoir un fils. Le seul problème, c'est que ce fils va tuer le père et se marier avec la mère. Bon, vous comprenez tout de suite la similitude qu'on a avec notre sipour grec, notre histoire grecque. Et donc, les parents, une fois l'enfant né, ont eu très très peur et l'ont abandonné de l'autre côté du fleuve. Ok, l'enfant a été recueilli par un couple de paysans qui n'avaient pas d'enfants et ils l'ont éduqué. Ils lui ont donné une bonne éducation et le mec est devenu juge de la ville dans laquelle il a vécu. Un jour, arrive devant lui un cas. Le cas, c'est un homme qui a commis un meurtre et qui doit donc être jugé. Le juge, et le condamne comme la loi le veut, d'après toutes les règles de l'art, il le condamne à mort. Et c'est lui qui exécute la sentence, car c'est la loi dans cette ville que le juge qui prononce une sentence de mort, c'est à lui d'exécuter la sentence. Et donc il tue l'homme. Seulement la même loi de cette même ville dit qu'une fois qu'on a condamné quelqu'un à mort, eh bien s'il est marié, il faut épouser la veuve pour ne pas la laisser seule. Et donc, eh bien, il se retrouve face à la dame qui était la veuve du meurtrier, et au moment où il va pour aller avec elle, le Midrash nous raconte que sa poitrine a laissé couler du lait, et à ce moment-là, il a compris que c'était sa mère, que le meurtrier n'était autre que son père qu'il a dû mettre à mort, et comprenant cela, il a décidé de ne pas fauter avec sa mère. C'est-à-dire qu'on a la même histoire qu'avec Œdipe, juste qu'à la fin, on n'a pas la tragédie grecque et on a la réalité morale de l'histoire. Maintenant, en quoi ce complexe d'Œdipe, il est tellement fort? Eh bien, il est fort parce que Le grand problème du père, c'est qu'il a envie que son fils lui succède. On a tous envie de ça. On a tous envie de cela, que bah, mon fils soit mini-moi. Je vais l'habiller comme moi, je vais lui faire comme moi, je vais truc comme moi. Alors c'est Hamoud au début. C'est mignon quand il est jeune et que tu vois le papa habillé, le fils habillé pareil quand ils arrivent Shabbat à la synagogue, la même kippa. Moi, je fais ça avec mon fils. Hein. Même kippa, même cravate et tout, machin. Oh, comme ils sont mignons. Mais ça, d'ailleurs. Mais attention, il n'est pas toi. Le fils n'est pas toi. Et s'il est toi, eh bien, il n'a absolument rien qui le sépare de toi et donc il n'existe pas. C'est terriblement difficile de demander à chaque fils de célébrité. C'est très dur d'être le fils d'eux. Me haute cachée. Quoi, je n'ai pas d'identité propre? Je ne suis que le fils d'eux? Moi, je me rappelle, alors, c'est un autre niveau. C'est moins violent, mais je me rappelle que moi, quand j'étais jeune et que j'allais aux EI, donc au scout juif en France, pendant très longtemps, j'ai été le frère de mon frère. J'étais le petit frère, et donc j'étais le frère d'eux. Il a fallu que je me démarque de mon identité qui n'était pas la même que celle de mon frère pour qu'à un moment donné, on m'appelle par mon nom et puis par le frère d'eux. Et le top du top de l'orgueil, c'est quand on a appelé un jour mon frère « Ah, t'es le frère d'Ethan !» Ça, c'était l'orgueil ultime. Mais bon, ça ne marche pas. Hein. Il restera mon grand frère quoi qu'il arrive. Et donc, si vous voulez, la notion de parent à enfant, eh bien, il y a une erreur qui est de vouloir faire de l'enfant un copy-paste du parent. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que c'est ça l'erreur de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu a eu deux fils. Yitzhak, c'est un tzadik. Il n'y a pas de problème, c'est un tzadik. On n'a pas besoin de remettre en cause sa tzidkout. Il est monté sur le Misbéach, il est au Latmima, il a même été au Gan Eden. Ah, Yitzhak, tzadik. Puis il a deux fils. Évidemment, eh bien, c'est deux jumeaux. Bon, ils ne se ressemblent pas vraiment physiquement, mais bon, il se dit quand même, c'est mes deux fils. Et donc, nous dit Reb Shimshon Raphaël Hirsch que pourquoi Esav va tourner comme il a tourné? Parce que Yitzhak l'a éduqué comme il a éduqué Yaakov. Il les a envoyés tous les deux à la Yeshiva, au Haider, et tous les deux, ils devaient faire du Limud Torah, tout ça. Et Yaakov, il adorait. Yaakov, en plus, il avait des lunettes. Il avait des lunettes et il avait des boutons. Donc, t'imagines, c'était un mec qui adorait être dans les livres. C'est un chnoun, comme on dit en hébreu. Alors que Esav, c'était une musculature énorme. Déjà à 15 ans, il prenait tout le monde. C'était un joueur de football incroyable. Il avait des pounes. Alors, je vais m'adapter au public américain. Ils lui ont fait des propositions incroyables à l'université pour qu'il devienne le quarterback de l'équipe de l'université. Mais papa, et papa Yitzhak, il veut pas. Il veut que j'aille étudier la Torah à la Yeshiva. Mais c'est pas pour moi. Je dirais, Reb Shimshon Raphaël Hirsch, que Yitzhak Avinu a chuté et n'a pas réalisé le verset de Michelet, de Shlomo HaMelech, qui nous dit « Chanoch la na'ar alpi darko ». Éduque le jeune en fonction de son chemin, et pas de ton chemin. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Vous savez comment on dit à un fils en hébreu? Ben. Ben, ça vient du mot « binan ». C'est une construction. Car évidemment que moi, je ne peux rien faire seul, je vais avoir besoin de mes enfants et mes petits-enfants pour construire quelque chose de fort et de solide. Je vais même vous dire plus loin, si on va jusqu'à cet enseignement incroyable de André Neher, le professeur André Neher disait que un juif, c'est quoi? C'est quand il a un petit-enfant juif, on en avait déjà parlé. En d'autres termes, c'est-à-dire que j'ai besoin pour que ma construction à moi soit complète de mes enfants et mes petits-enfants. Mais pour que mon fils devienne un ben, c'est-à-dire un binyan, eh bien, je dois me rappeler de comment on dit fils en araméen. Eh oui, comment dit-on fils en araméen? Eh bien, il y a certains noms qui sont, on les passe en araméen, par exemple, on ne dit pas Rabbi Shimon ben Yochai, on dit Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, maintenant, je sais comment on dit fils en araméen. Bar, bar. Bar, c'est un fils en araméen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bar, ça vient du mot bara. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Or bara en araméen. D'ailleurs, vous savez quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle araméen? Je vais demander à mon ami Harry de me faire la traduction en arabe. Dis-moi si je le dis bien, d'accord? Moi, ma grand-mère, elle me disputait en yiddish. Mais peut-être que ta grand-mère, elle te disputait en arabe. Et je sais. Hein? En arabe. Et donc, quand tu as fait une bêtise, que tu étais jeune et qu'elle n'avait pas envie de te voir et qu'elle voulait que tu sortes de la pièce, elle t'a peut-être dit Bra. Alors, je le dis mal parce que c'est mon accent polonais qui prend le dessus. Mais Bra en arabe, Bara en araméen, ça veut dire dehors. À l'extérieur. Bereshit bara Elohim, ça veut dire que Dieu a mis à l'extérieur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs en anglais également. Exit. Exit, ça veut dire quoi? Ex, ist. Être à l'extérieur. En d'autres termes, Aben, Abar, il est extérieur à son père. Il n'est pas une prolongation de son père, il est autre chose. Il est extérieur à son père et il doit l'être. Pourquoi il doit l'être? Eh bien parce que lui aussi, il représente un autre dévoilement, une autre dimension que son père a mis en place. C'est pour ça que si vous regardez Abraham et Yitzhak, vous n'avez absolument pas les mêmes personnages. Les deux sont des tzadikim, il n'y a pas de problème. Mais alors qu'Avraham est un tzaddik qui connaît Dieu d'après Midat HaChesed, Yitzhak est un tzaddik de Midat HaDin. Si l'un est porté sur la bonté, l'autre est porté sur la justice et sur la rigueur. Deux dimensions fondamentalement différentes. Et en cela, eh bien, Yitzhak devient le fils d'Avraham. Mais je vais vous dire, il y a autre chose. Il y a autre chose, et je ne sais plus si on en avait déjà parlé ou pas, dans les cours précédents Pessah, mais c'est quelque chose qui est tellement essentiel qu'il faut, il faut le rappeler, quoi qu'il arrive. Vous savez, dans la paracha de Vaera, dans le livre de Shemot, il y a marqué là-bas, Vaera el Avraham el Yitzhak ve el Yaakov ve el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. Dieu dit à Moshe, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ve el Shaddai, en tant que El Shaddai, mais mon nom, Hashem Yudke Vavke, je ne leur ai pas montré. Rashi nous dit quelque chose de révolutionnaire. Il dit, ah, tu sais qui c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov? Avot. Voilà, c'est tout ce qu'il dit Rashi. Avot. J'ai envie de te dire, Rashi, Todarabah. Todarabah, je ne le savais pas. Et non, en fait, le chidouche de Rashi, c'est quoi? Eh bien, le chidouche, c'est de me dire que Yitzhak a accepté d'être un Av. Il était le Ben Avraham, mais il a accepté de devenir un Av. Yaakov était le ben de Yitzhak et était le Nechet d'Abraham, mais il a accepté d'être un Av. C'est quoi un Av? Un Av, nous dit Rashi, c'est El Shaddai. C'est-à-dire que celui qui s'est dévoilé au Avot, c'est El Shaddai. Rashi dit El Shaddai, c'est Dieu qui fait des promesses, mais qui ne les réalise pas encore. Shmi Hashem, c'est celui qui réalise les promesses. En d'autres termes, Abanim, ce sont ceux qui réalisent les espoirs des pères. Quand je dis banim, vous avez compris, il ne s'agit pas des garçons, hein, c'est des garçons et filles, des enfants, quoi. Abanim, ce sont ceux qui réalisent les espoirs des pères. En d'autres termes, Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient pères, puisque Dieu leur a promis la terre d'Israël, mais eux, ils n'y étaient pas, ils n'étaient pas les patrons de la terre d'Israël, c'était les Cananéens à leur époque. La génération de Moshe qui sort du désert, ce sont les fils. Ce sont eux qui vont réaliser les promesses. Mais en fait, ce n'est pas que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qui donc était également père? Eh bien, toutes les quatre générations entre Yaakov et également Lévi et également Kehat et également Amram, eux aussi étaient des patriarches quelque part, puisque eux aussi rêvaient d'une réalisation qu'ils n'ont pas vécue. La génération de Moshe et de Yehoshua sont les Banim qui réalisent les promesses. De la même façon, eh bien, lorsqu'on est reparti en exil après la destruction du premier temple, eh bien, les gens qui sont partis en exil sont devenus des avot, puisqu'ils ont entendu les promesses faites par Yirmiyahu, Yeheskel, qu'on va revenir. Et la génération de Ezra et Nehemia qui revient deviennent les banim. Et après, il y a la destruction du deuxième Beth Amikdash par les Romains, et il y a 2000 ans de patriarches qui deviennent les pères, qui ne vivent que pour cet espoir de l'an prochain à Jérusalem. Mes grands-parents, tes grands-parents étaient des patriarches et matriarches. Ils vivaient pour cet espoir de la réalisation. Et nous sommes la réalisation de toutes leurs prières et de toutes leurs promesses. Nous sommes les banim. Et c'est justement parce qu'on n'est pas comme eux, qu'on est sorti, qu'on est différent, qu'on peut être leur réalisation. C'est quand mon fils choisit son chemin qu'il est véritablement mon fils. Et l'un des trucs que je peux dire avec beaucoup de gaava, beaucoup d'orgueil, il y a plein de choses que mon fils il veut faire comme moi. Mais il y a une chose, je ne sais pas, hein, je crois que c'était quand il a eu 4 ans, ouais, un truc comme ça, il a pris une décision et il s'y tient. Donc jusqu'à 3 ans, on lui a pas coupé les cheveux, normal, ok, si tu veux. Et à 3 ans, on lui a fait la coupe de cheveux. Et quand on lui a fait la coupe de cheveux à 3 ans, on lui a laissé les péotes. Hamoud, la malo. Et je crois que c'est qu'il avait 4 ans ou 5 ans. On lui avait toujours pas coupé les péotes. Donc il avait des grandes belles péotes comme ça, voilà, jusque-là, à peu près. Et le reste, on lui coupait les cheveux courts. Et un jour, il m'a demandé, est-ce que toi, papa, t'as des péotes? Alors je lui ai dit, ouais, regarde, elles sont là. Elles sont là pour de vrai. Alors il m'a dit, ouais, mais alors pourquoi tu les caches? Moi, les miennes, elles sont comme ça. Elles sont bien comme il faut. Alors je lui ai dit, écoute, il y a deux avis. Moi, je fais un certain avis, selon l'enseignement du Gaon de Vilna. Bon, il n'a pas très bien compris. Et je lui ai dit, mais il y a une autre façon de laisser pousser les péotes. C'est ceux qu'on voit dans la rue avec les grandes guirlandes. Alors il m'a dit, Avalmazé. Ah, ben je lui ai dit, tu sais ce que c'est les grandes guirlandes? Pourquoi est-ce que les chassidim, ils se laissent pousser des péotes comme ça en mode bigoudi? Ma makara, pourquoi ils font des bigoudi? C'est marqué dans le Noam Elimelech de Rabbi Elimelech Milijansk, un des grands maîtres de la chassidoute. Il dit qu'en fait, le vrai Bet Amikdash, c'était le premier. C'était le vrai bien Bet Amikdash. Le Mishkan, il n'était pas à Jérusalem. Et le deuxième temple, il n'y avait pas vraiment de Shrina. Le Bet Amikdash, par excellence, c'était le premier. Et il dit, tant qu'on n'a pas reconstruit le troisième, le premier Bet Amikdash, c'est notre modèle. OK. Il dit, donc depuis qu'il a été détruit, eh bien, l'homme doit prendre sur lui d'être un petit Bet Amikdash le temps qu'on reconstruise le grand. Or, nous dit Rabbi Elimelech de Lijansk, que du premier Bet Amikdash, on ne connaît pas grand-chose. C'est pas comme le deuxième où on avait Flavius Joseph qui nous a fait un descriptif total du Bet Amikdash. Le premier, on connaît les dimensions, on sait quels étaient les ustensiles qu'il y avait dedans, mais de l'architecture du Bet Amikdash, on ne connaît pas grand-chose, à part une chose, qu'à l'entrée du Bet Amikdash, il y a deux colonnes qui s'appellent Yachin et Boaz. Eh bien, voilà la signification des colonnes que se font pousser les chassidim. Ce sont des colonnes, c'est pour ça qu'ils veulent le faire en mode bigoudi, pour être genre l'entrée au Bet Amikdash. Eh bien, depuis ce jour-là, mon fils a décidé qu'il ne se couperait jamais les péotes, qu'il déteste quand je lui mets pour rigoler derrière les oreilles. Il dit non, Annie Bet Amikdash. Et donc, mon fils a des péotes, il a 9 ans maintenant, des péotes de chassidim en mode guirlande. Eh bien, Besader Gamour, c'est justement parce qu'il n'est pas comme moi que ça lui donne toute sa grandeur et que ça me permet à moi de me réaliser à travers lui. Parce qu'il ajoute quelque chose que je n'avais pas. Et c'est donc la deuxième paire, le père et le fils. La troisième paire, eh bien, c'est évidemment la notion de zougiout, la notion de couple entre un homme et sa femme. Mon Rav m'avait dit, quand j'ai commencé à prendre la direction d'une communauté, de m'occuper de gens, il m'a dit, tu sais, quand on va venir te poser des questions sur la zougiout et les jeunes qui vont se marier, ils vont sûrement te demander qu'est-ce que tu en penses. Il y a une question que tu dois leur poser. Est-ce que vous vous disputez? Si la réponse est non, sache qu'a priori, ça ne va pas marcher, leur couple. Mais s'ils se disputent et qu'ils restent un couple, alors c'est bon. Lama. S'ils ne se disputent pas, ça peut être plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont exactement pareils sur tout. Donc, ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. Ou alors, ça peut être parce qu'ils évitent les vrais sujets. Il y a des couples comme ça qui ne veulent pas parler des choses qui fâchent. Sauf que les choses qui fâchent sont les choses les plus importantes de nos vies. Donc, si on refuse, à un moment donné, ça va t'exploser à la figure. Par contre, si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu comprends que moi, j'ai une idée, toi, tu as une idée, et ensemble, on construit quelque chose. Et il y a une grande, grande, grande question mathématique qui a trois options de réponse et il ne faut pas se tromper. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez déjà été trouvé face à cette question-là, peut-être au bac, peut-être à l'université. Question terrible de mathématiques. Combien font 1 plus 1 ? Ah, grande question. Grande question parce qu'il y a trois options de réponse. Il y a la réponse des romantiques, la réponse des mathématiciens et la réponse de la Torah. La réponse des romantiques, c'est de dire 1 plus 1, ça fait 1. Chamoud, sauf que c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est mort dans l'ensemble. Agave, il y a une expression en hébreu qui malheureusement va dans ce sens-là. Tu vois, un couple très amoureux, il y en a un qui dit « Ani met alayr ». Je suis mort d'amour pour toi. Oui, ben c'est pas très joyeux. Hein. Donc 1 plus 1, ça fait 1. Ben non, non, c'est terrible. Alors tu peux dire comme les mathématiciens, de dire que 1 plus 1, ça fait 2. Oui, ben à ce moment-là, je n'ai pas besoin de me réunir avec toi. Parce qu'on était deux déjà avant qu'on soit mariés. Il y avait toi, il y avait moi, ok. Donc, qu'est-ce que ça rajoute de se marier? Et là, il y a la réponse de la Torah qui nous dit 1 plus 1 égale 3. Alken, nous dit le livre de Bereshit, Yaazov ish et aviv et imo, vedavak beishto. À un moment donné, il faut sortir du cocon familial et se marier avec sa femme. Veyu le basar echad. Et ils deviendront une seule chair, nous dit Rashi. C'est le bébé qui va sortir de tout cela. En d'autres termes, un couple qui se marie, il devient trois. Ça veut dire quoi ? Il y a toujours lui, son identité individuelle est toujours là. La sienne à elle est toujours là également. Mais ils ont créé ensemble, force de leur différence, une nouvelle identité qui s'appelle le couple. Et ce n'est que quand on n'est pas d'accord qu'on peut créer quelque chose de grand. Parce que ça veut dire quoi, on n'est pas d'accord ? Ça veut dire que moi, j'ai une idée de ce qui est Emet. Toi, tu as une idée de ce qui est Emet. Et ensemble, on peut arriver Emet au Emet. Parce que c'est sûr qu'il y a des points dans ce que moi, je voulais qui n'étaient pas bons. Et c'est sûr qu'il y a des trucs, enfin, sauf chez ma femme, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a des choses chez toi qui ne sont pas bons aussi. Vous savez, c'est pour Eli. Je ne sais pas s'il est déjà là ou pas, mais on lui dira. Reb Shlomo Carlebach, il disait comme ça. Hein, il disait que quand ta femme, elle fait quelque chose de pas bien, qu'elle brûle le repas, qu'elle fait une bêtise, l'homme chané, tu dois l'embrasser autant que tu peux et lui dire merci. Parce que, il dit, sinon, si tu faisais pas de bêtises, tu serais un ange. Et si tu étais un ange, eh bien, on se serait jamais rencontrés. Donc, merci que tu fasses des bêtises, parce que comme ça, ça me permet de te mettre un petit peu à mon niveau. Et donc, on peut ensemble créer quelque chose. Mais c'est de cela qu'on parle. La zougiyout dans le judaïsme est créatrice de vie. Parce que c'est de ça qu'on parle, en fait. C'est uniquement de cela qu'on parle. La zougiout, c'est ce qui amène la vie. Pour pouvoir amener la vie, eh bien, il faut avoir une compréhension double. D'un côté, je donne, mais d'un autre côté, je reçois. Et c'est pour ça que dans une zougiout entre un homme et une femme, eh bien, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Ces deux dimensions sont fondamentales pour ne pas nous prendre pour Dieu. Dieu est le seul qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. C'est-à-dire, il veut qu'on lui ressemble, donc on donne aussi, mais on est conscient qu'on reçoit également. Cette dualité permet de construire la vie. D'ailleurs, ben, cette analogie entre le couple, entre l'homme et sa femme, il n'y a qu'en hébreu qu'on comprend que l'homme et la femme sont véritablement liés. Puisque en français, homme, femme, ce sont deux mots qui n'ont aucun rapport étymologiquement parlant. Pareil en anglais. Man, woman, enfin je ne suis pas un pro de la grammaire anglaise, mais who n'est pas le préfixe pour faire le féminin en anglais. Donc woman, agave, ça vient de l'allemand, c'est womb man, c'est-à-dire homme avec utérus. C'est assez descriptif. Il n'y a qu'en hébreu où ish ve isha, l'un est le masculin et l'autre est le féminin de l'autre au niveau étymologique, au niveau de l'hébreu, au niveau du mot. Pour faire le féminin en hébreu, on rajoute « hey ». Donc, il y a « ish » et après, il y a « isha ». De la même façon, eh bien, quel est notre rapport avec la terre d'Israël? Vous savez, les nations, quelles qu'elles soient, entretiennent un rapport très profond avec la terre sur laquelle elles vivent. Mais comment les Américains appellent les États-Unis d'Amérique ? Motherland. De la même façon que les Français diront la mère patrie, Vaterland en Allemagne. C'est-à-dire que le lien qui unit le peuple à sa terre, c'est un lien de parent à enfant. On a dit très profond ce lien de parent à enfant, mais il y a juste un problème. C'est que c'est un lien qui est dénué de tout sens moral. Mon fils, c'est mon fils, pas parce que je l'ai choisi, parce que c'est mon fils. Et malasot, il n'est pas content de ses parents, ça reste ses parents. Alors que la relation qui unit un homme et sa femme est une relation d'abord et avant tout basée sur le choix. Donc c'est un choix moral. J'ai choisi ma femme, j'aurais pu ne pas la choisir. D'ailleurs, je peux aussi choisir de mettre fin à notre relation. Ce n'est pas un lien naturel, c'est un lien de choix. C'est beaucoup plus fort. Or, c'est quoi la mère patrie du peuple juif ? C'est l'Égypte. On est né en Égypte et nous avons un interdit dans la Torah de retourner vivre en Égypte. On ne veut pas avoir de complexe d'Œdipe collectif. Alors que le lien qui unit le peuple juif et la terre d'Israël, c'est un lien de zougiyout. Comme dit le prophète Hoshéa, « Ve'artiti ba'el ». Je vais avoir une relation presque intime entre Am Israël et Eretz Israël. Et c'est pour ça que le prophète Yechezkel dira de nous, le peuple juif, qu'on s'appelle Adam. Atem kruim Adam. Ve'en umot ha'olam kruim Adam. Et donc, c'est quoi le féminin de Adam ? Adama. Il y a donc véritablement cette dimension de zougiyout entre Am Israël et Eretz Israël. Ces trois pères qui nous permettent de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde la chavruta, les enfants et la relation conjugale sont les trois pères qui nous permettent de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, les amis, vous savez où ces trois pères, où ces trois dimensions de zoug avaient véritablement lieu d'être? Eh bien, c'était au Beth Amikdash. En fait, le Beth Amikdash, c'est l'endroit de la zougiyout. D'abord, parce qu'au Beth Amikdash se trouve la Torah. La Chavruta, qui est le moyen d'étudier la Torah, eh bien, où se trouve le Sanhedrin? Au Beth Amikdash. La notion de parent et enfant, c'est barour, puisque au Beth Amikdash, tu prends conscience que Banim Atem la Hashem Elohechem. Tu comprends que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et la notion de conjugalité, eh bien, dans le livre de Melachim, le Kodesh HaKodashim s'appelle Cheder Amitot, l'endroit du zivoug entre un homme et sa femme. Et c'est donc pas pour rien. C'est donc pas pour rien qu'on a besoin pour avoir cette rencontre tellement profonde avec le Créateur et la créature, eh bien, on a besoin de trois dimensions. On a besoin de trois dimensions pour pouvoir se rencontrer. C'est quoi ces trois dimensions? Eh bien, c'est la notion de temps, la notion d'espace et la notion d'identité, de personne, de temps et d'espace. Personne, temps et espace, ce sont les trois dimensions pour qu'il y ait une rencontre. Pour que deux personnes se rencontrent, il faut qu'il y ait les deux personnes en question, sinon il n'y aura pas de rencontre. Mais il faut aussi qu'on ait donné un rendez-vous à un endroit précis et à un moment précis. S'il manque un des trois, ben, il n'y aura pas de rencontre. Et c'est pour ça que la rencontre en hébreu s'appelle Moed. Moed, ça vient du mot Leivaed, se rencontrer. Et il y a deux dimensions qui s'appellent Moed. Il y a d'un côté Oel Moed, le Beth Amikdash, et il y a également les fêtes qui s'appellent les Moadim. Les fêtes sont les moments de rencontre dans le temps avec Dieu. Le Beth Amikdash est le lieu de rencontre dans l'espace. Et les deux identités, eh bien, c'est Am Israël et Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, cette triplette de pères, eh bien, nous permettent de faire la fête des pères. C'est lorsqu'on comprend que j'ai besoin de ces trois piliers, de mon ami avec qui j'ai une sorte de relation, de mes enfants avec qui j'ai une autre sorte de relation, et agave, donc mes parents aussi. Ça va dans les deux sens, évidemment. Et ma femme ou mon mari avec qui j'ai une autre sorte de relation, eh bien, ces trois piliers, ces trois zougotes, eh bien, me permettent d'avoir le champ libre pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Car quelque part, Akadosh Baruch Hu, c'est mon mari, puisque la relation qui unit Am Israël à Akadosh Baruch Hu, telle que nous le raconte Shira Shirim, eh bien, c'est une relation de mari et femme. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, c'est mon papa, Bani Matem Lachem Elohechem. Et d'un troisième côté, Akadosh Baruch Hu, c'est mon poteau, puisque Ve'ahavta le'reacha kamocha, nous dit Chazal, mise re'acha, tu aimeras ton prochain, ton ami comme toi-même, eh bien, nous dit qui c'est re'acha, c'est Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, cette relation qu'on a avec notre ami, nos parents, enfants et notre conjoint, eh bien, c'est la relation qui détermine le dévoilement et le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça, à mon sens, la fête des pères. Le problème, c'est qu'on a décidé de faire le cours aujourd'hui, c'est-à-dire pour la fête des pères, et que la fête des mères, c'était il y a 2 semaines, et que donc, je vais me faire disputer par ma mère que j'ai fait un cours sur la fête des pères et pas sur la fête des mères. Maman, à charge de revanche, pour l'année prochaine, on fera un cours pour la fête des mères, ne t'en fais pas, et j'écrirai ça ou mère, M-A-I-R-E, ou mère, M-E-R, on verra, on a 1 an pour réfléchir. Voilà, les amis, Chazak ou Baruch. Oui.
S'il te plaît, est-ce que tu peux re-expliquer Yeshua Benoun, pourquoi il a été sauvé le poisson a été sauvé des eaux, son père?
Oui, tu as raison. J'ai expliqué, mais j'ai oublié le question Noun. Non, en fait, ils l'ont mis de l'autre côté du fleuve, mais avant ça, il y a un poisson qui est venu et qui l'a mangé et qui l'a recraché de l'autre côté du fleuve. C'est juste ce côté-là que j'avais oublié, le côté Noun, autant pour moi. Yeshua, c'est-à-dire qu'il a été sauvé de ce poisson qu'il a recraché de l'autre côté du fleuve. Ok ? C'est un Midrash Yeshua bin Noun. Tu peux le trouver dans le Otsar à Midrashim. À la base, il vient de Ephraim.
Parce qu'il y en a qui disent qu'il s'est fait sauver d'Égypte, son père.
Oui.
Parce que quand il vient vers Moshe, on dit que Yeshua Benoun, il vient via Moshe. Tu sais, tu vois, c'est pas
ce que. Oui, tout à fait.
Alors, il pense qu'ils étaient déjà à l'extérieur d'Égypte.
C'est-à-dire que tu as totalement raison que le père de Yeshua, donc Monsieur Noun, en l'occurrence, il vient de Shevet Ephraim et il fait partie de ceux qui ont fait la faute des Béné Ephraim. C'est quoi la faute des Béné Ephraim? Ce sont des gens qui sont sortis d'Égypte avant que Moshe n'arrive. Ils sont sortis d'Égypte avant l'heure. Et ça n'a pas marché et ils ont été massacrés dans le désert. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on sort nous d'Égypte, eh bien, nous dit la Torah que Dieu n'a pas voulu nous faire passer derrière Eretz Pelishtim, qui karov hu, peine. De peur qu'on voit les guerres qui nous attendent et qu'on ait peur. De quelle guerre on parle? Eh bien, nous dit Chazal, de voir, on voulait pas, Dieu ne voulait pas qu'on voit les restes, si tu veux, des Bnei Ephraim qui ont été tués et qui ont été laissés là dans le désert. Donc, c'est vrai que le père de Yoshua faisait partie de ces gens-là. Et c'est en cela que Yoshua, il vient Keilu de l'extérieur. C'est pas que lui, il est sorti, il n'est pas sorti avec son père. Mais il vient de là-bas.
Merci,
Ethan. Chazal Koubarou. Yofi. Toi? Eh bien, ça fait plaisir.
Ethan, j'arrête pas de raconter à tout le monde ton chiour, la guerre des 6 jours.
Avec plaisir, c'est fait pour ça.
Alors, on continue jeudi,
Bezrat Hashem. Donc à 9h, heure de New York. Hein. Yofi. Ça marche. À bientôt.